Salut à tous et bienvenue dans les guidons de l'info avec trois bras cassés ce soir. Mais non, je plaisante, on a plein de choses à vous raconter, plein de choses intéressantes. Et avec moi, comme d'habitude, à ma gauche, Pat, salut.
Salut tout le monde, j'ai pas du tout les bras cassés. Regarde.
L'autre gauche.
T'as bien les deux bras.
L'autre gauche, Jacinthe.
L'autre gauche, d'accord, à ma droite, on l'a refait, mais ils voient pas les auditeurs, c'est pas grave.
Mais nous, on est là pour ça.
Et ce soir, tu es pour la suite d'une ancienne à moins de 3000 euros.
Oui, c'est ce qu'on a commencé la semaine dernière, on avait fait que les japonaises, si quand même... Quand même, une ancienne à moins de 3000 euros, autant aller voir du côté des Européens. L'intérêt de rouler en ancien, c'est de ne pas rouler japonais, justement.
Donc. Ah, ben j'ai bien fait de venir. T'as bien voir fait. Ce que t'as à me proposer pour 1500.
Bah justement, Nao, il va nous faire un petit billet d'humeur ce soir et après.
Et bonsoir
après,
à
les mains
à tous.
Dans les poches.
1500.
Tu te venges, je vois, Jacinthe.
Mais non.
Déjà, la pauvre Jacinthe a été attaquée par un tigre, il faut vous le dire, messieurs, dames.
Alors tu verras sur le billet d'humeur, quand même, j'ai fait un bilan des actus pour refaire ressortir mon humeur du moment. Et donc j'ai quand même bossé.
Mais après, il y aura quand même pas mal de choses à vous dire, parce qu'il y a quand même, il y a eu quand même un grand prix ce week-end, donc trois petits mots et demi. Il y a aussi une petite nouvelle, une nouvelle fraîche d'un certain Julien. Vous vous souvenez de 103 Ginette?
Ginette,
eh ben, une petite nouvelle et une bonne nouvelle à vous donner à son sujet. Et puis, bien entendu, je suis allée voir pour vous l'univers de la moto. Ce fameux complexe qui vient d'ouvrir ses portes à Toulouse depuis le 1er mars dernier. Voilà, je l'ai vu, je l'ai visité en long, large et en travers. Je vais vous dire tout ça tout à l'heure. Mais je laisse dans un premier temps la parole à notre ami Dao.
Mais j'ai des retours aussi sur cette espèce de salon de moto, tout compris. Alors, billet d'humeur. Mais je me suis basé en fait sur quelques actus récentes. Et tout ça, ça m'a, comme d'hab, hein, quand on fait notre billet d'humeur, ça m'a mis un peu de bonne humeur. Et puis d'autres trucs qui m'ont mis vraiment en pétard.
Non, je le crois pas.
En pétard? Mais quand je suis fatigué, je suis en pétard, tu vois. J'ai les cheveux qui sont. Bon. J'ai remarqué, donc comme tu disais là justement, qu'on a eu des nouvelles de Julien.
Oui.
Avec sa fameuse Ginette, Julien Guerrero, de son nom. Et donc, tu me permettras de faire l'annonce à ta place. Ça fait partie des bonnes nouvelles que j'ai entendues cette semaine. Donc, il a été invité par Peugeot Motocycle pour lui offrir, en fait, une petite mobilette de remplacement.
Une Ginette bis.
Une Ginette bis.
Eh ben non, ça sera pas une Ginette bis parce que.
Il n'a pas encore défini en fait son nom.
Son petit nom.
Mais ça sera une Peugeot.
Ginette.
Une Peugeot Vogue noire.
Une 103 Vogue.
Il m'a envoyé la photo, elle est belle.
Donc ça sera une 103 Vogue et comme de par hasard, il est invité à y aller demain.
Ouais.
Le jour de son anniv.
Exactement.
Voilà, donc moi j'avais trouvé cette nouvelle vachement sympathique parce que, bon, vous souvenez ou pas qu'il s'est fait voler en décembre dernier. Sa mobilette Ginette, qui était une 103 RCX à Brest, elle avait déjà plus de 45 000 bornes de voyage autour de l'Europe.
Ouais, là, il avait fait un peu.
Il avait pas mal vadrouillé, et donc du coup, son moral était quand même vachement tombé. Et, alors j'ai suivi un petit peu son site pour voir un peu ce que les gens disaient, ce que lui commence à évoluer. Et il y avait quand même beaucoup d'encouragement. Donc ça pouvait lui remonter un peu le moral, mais cette nouvelle là de Ginette, de la nouvelle Ginette, je sais pas comment il va l'appeler, hein, il l'a pas encore dit quand même. Hein. Ils l'ont appelé Baby Ginette, enfin le mec de.
C'est Peugeot qui l'aura.
C'est Peugeot qui a dit
qui
je t'offre une Baby Ginette. offert. Hein.
N'empêche que c'est un super geste commercial quand même.
Non, c'est un geste commercial, ça donne une bonne pub puisque l'événement a pris quand même un peu d'ampleur, ça, il y a eu pas mal de communication dessus. Et voilà, et donc ça va lui remonter le moral et surtout lui permettre de continuer à réaliser ses petits rêves de voyage, de découverte, de vadrouille en fait, d'abord en Europe et puis dans le monde.
Et puis un peu plus loin, parce que je sais pas
partir.
Si tu te souviens, il voulait partir au Maroc.
Il voulait partir au Maroc, voilà. Hein, donc voilà, ça m'a pas mal plu, j'étais assez content pour lui. Et,
c'est un geste commercial sympa, ça prouve qu'ils font un petit peu attention. À leurs clients.
C'est ça, voilà, exactement.
C'est plutôt rare.
Et bon anniversaire, Julien.
Eh oui, si tu nous entends. Bon, et en plus de ça, bon, il y a eu le week-end dernier le Grand Prix, comme tu dis, mais il y a eu aussi, comment ça s'appelle ? Zut. L'édition du trophée de
Trophée aux Coluches.
Trophée aux Coluches, voilà,
Resto
c'est ça.
Resto du cœur.
Qui a eu lieu au circuit de Carole. Et bon, bah, de toute façon, cette année, ça s'est super bien passé. Il y a eu plein de gens à y aller, entre 1000 et 2000 personnes de plus que les années passées.
Et il faisait super
beau.
Fait beau.
Et en plus,
c'est
il
ça,
a,
le truc,
il a fait beau,
parce
tu vois.
Parce que d'habitude, c'est une sortie où tu t'habitues à rouler sous la neige.
Sous la pluie, j'ai vu la neige.
Moi.
C'est vrai?
Ah ouais, j'ai vu la neige.
Donc voilà, donc effectivement, le beau temps, enfin, les conditions climatiques, souvenez-vous de ce terme-là, les conditions climatiques font beaucoup pour ce genre d'événement et pour beaucoup de choses par ailleurs. On va y venir. Et donc voilà, donc 4000 entrées payantes cette année, ça fait plus de 17 000 euros ou plus de 16 000 euros versés en fait au Resto du Cœur. Donc voilà, j'avais vu un petit événement pour une personne qui était vachement sympathique, mais à une portée publicitaire, commerciale plus importante. Et là, un gros événement pour beaucoup plus de personnes.
Et beaucoup de solidarité.
Et beaucoup de solidarité motarde. Et voilà. Et donc j'ai vu ça, j'étais super content. Et puis je vais m'asseoir dans le canapé tranquillement, lire mon manteau mag préféré. Et je tombe forcément sur les nouvelles un peu plus politiques, un peu plus
un peu moins drôle, tu veux dire.
Un peu plus sécurité routière, malheureusement. Et ça m'a rabaissé un petit peu le niveau. Donc j'ai fait un bilan à la fin pour savoir où est-ce que je me situe, si tu veux, par rapport au démoralisé ou le encore confiant en l'humanité, tu vois.
Ou envie de casser la gueule à tout le monde.
Mais en fait, ouais, c'est vrai que je suis pas violent. Je suis en pétard, mais je suis pas violent. Et voilà. Et donc, je dois malheureusement me rendre compte que l'État continue encore à communiquer sur les vilains petits conducteurs que nous sommes. Les méchants petits garçons de la route ou petites dames de la route. Pour justifier tout son dispositif répressif qu'il a mis en place depuis pas mal de temps.
Mais là, je t'arrête tout de suite parce que quand il parle de vilain motard au gouvernement, c'est toujours au masculin.
T'as raison. T'as raison. Ceci dit, j'ai roulé à côté d'une jeune motarde tout à l'heure et elle m'en a mis plein la tête de vroom vroom.
Donc il y a des vilaines petites canards aussi.
Oh, il y en a quand même. Mais beaucoup plus de mecs quand même. Enfin, bref.
Proportionnellement, il y a déjà beaucoup plus de garçons qui font de la moto que de filles.
C'est sûr.
Donc il y a des chances que, statistiquement parlant, il y ait plus de mecs qui fassent des conneries que de filles.
Mais proportionnellement, nous sommes tout de même plus sages et plus raisonnables.
D'ailleurs, les assurances s'y trompent pas.
Voilà.
Ouais. Donc je disais, il y a eu pas mal de communiqués de presse en fait. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a eu des communiqués de presse du gouvernement. Pour dire que, pour pointer du doigt en fait, que les motards conduisaient toujours très mal et qu'il y avait toujours beaucoup d'accidents par rapport aux accidents en général. Et le problème, c'est qu'il arrive à dire que la mortalité a énormément baissé grâce au radar. Et à côté de ça, si vous regardez un petit peu les journaux ou si vous regardez je ne sais pas si c'était une réunion ou une petite conférence qu'il y a eu sur la sécurité routière récemment, mais il se trouve qu'au mois de février, il y a eu une augmentation de 13% des accidents par rapport à l'année dernière.
Et pourquoi cela?
Puisque tous les radars étaient partout, la répression a été augmentée, tout ça. Bon, qu'est-ce qu'ils disent ces messieurs du gouvernement? Ils disent « mais c'est normal ». Tout ça, c'est dû à des conditions météo défavorables en février par rapport à l'année dernière.
Ah, forcément, ils sont très intelligents, le gouvernement. Ils ont tout compris.
Donc, quand la mortalité baisse, c'est grâce au dispositif des radars. Et quand elle augmente, c'est normal. C'est parce qu'il a plu, il y a eu du brouillard et tout ça.
Mais c'est vrai que nous avons eu un très vilain hiver. Hein.
Ah oui, c'est clair. Il y a eu beaucoup de neige, beaucoup de pluie, il a fait très froid. Bon, c'est fatigant d'être pris pour un con à la fin.
Oui.
Ça pousse soit à se retirer complètement de la société, tu vois, et vivre en autarcie et pas écouter tout ce tralala. Mais en même temps, tu vois, avec les deux premières nouvelles que je vous ai citées, il y a quand même la preuve, si tu veux, qu'il y a quand même des hommes qui pensent aux autres hommes ou aux autres femmes, qu'il y a quand même pas mal de solidarité au sein des motards, que ça existe vraiment. Et que ça pèse beaucoup plus, heureusement, dans ma tête, encore, pour que je continue à positiver et à avoir confiance en notre humanité, quoi.
C'est beau.
C'est beau, oui. On a eu la même idée avec Patrice. Et je te remercie beaucoup, Nao, pour
Soyons
tout ça.
Solidaires.
L'agenda. Alors ce week-end, on va tous à Sesquières. Il fait quel temps ce week-end?
Il fera beau vu qu'il fait moche aujourd'hui.
Ils n'ont pas prévu un temps extraordinaire dimanche, mais samedi, on devrait pouvoir éviter les gouttes.
Ouais, donc avoir un super beau soleil. Donc, c'est la 22e bourse d'échange de motos anciennes organisée par le Cercle T. C'est un motoclub, le Cercle T de Blagnac ou de l'Union, je ne sais plus.
Blagnac, je crois.
De Blagnac, hein. Mmh. Qui organise ça chaque année depuis 22 ans. Donc. Ça se passe à Sesquières, c'est ce week-end 17 et 18 mars.
Une grande bourse hein, pour la moto ancienne, on trouve vraiment tout. Chiffon, ferraille, pot de lapin, tout.
Voilà.
Non, c'est super.
Ah, ferraille t'as dit.
Ferraille, oui. Ouais. Ah oui, il y en a plein.
Et les
pots de lapin sont plus difficiles à trouver, mais en cherchant bien, je suis sûr qu'on les trouve.
Et chiffon, j'ai pas bien compris.
Chiffon.
Ah, chiffon, oui. Chiffon. Pas simplement les chiffons sales, mais bon, blousons, pantalons et autres bricoles.
Peut-être, mais je sais pas.
Et d'ailleurs, à propos de ferraille, je garde une image extraordinaire de cette bourse de l'an dernier.
Des artistes.
Parce que j'avais pris des photos un petit peu. Alors là, c'est vraiment l'endroit idéal pour prendre des photos dans tous les sens.
Je suis sûr que t'as été marqué par un sidecar sur une remorque. Non, c'est pas ça cette photo que tu pensais?
Non, c'est pas cette photo-là que je pensais. C'était plus ferraille dans l'idée. C'est la superbe exposition et présentation de vieux pots d'échappement sur le grillage qui borde la bourse. Et j'ai trouvé cette image extraordinaire, voilà, et qui m'a plu. Donc, en fonction de l'humeur que vous avez, de l'envie que vous avez en allant à cette bourse, il y a plein de choses à voir. Que vous soyez motard ou non d'ailleurs, hein. Un artiste par exemple complètement déjanté, il peut avoir des flashs, des images comme ça de cette bourse d'échange, parce que c'est toute une vie qu'il y a autour de ça. Une vie, pas simplement dans cette histoire de moto et de moto ancienne, mais dans la présentation des pièces, dans l'attitude des personnages, dans les échanges qu'il y a entre les gens, et puis dans des objets complètement atypiques qui parfois on a l'impression qu'ils n'ont rien à faire là. Je me rappelle par exemple d'une espèce de petite présentation de trois petits vélos, parce que bon, l'histoire de la moto ça remonte à très loin, et si on remonte très 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 loin, avant c'était deux roues, des pédales et des vélos. De trois petits vélos rouillés, placés de telle façon qu'on dirait que c'était une sculpture, un objet d'art, enfin voilà, c'est une bourse d'échange, c'est quelque chose de complètement extraordinaire, donc même si vous n'êtes pas motard, ça vaut le coup d'œil.
Voilà. Donc, voilà. Il n'y a même pas besoin d'avoir envie d'acheter ou d'avoir besoin de quelque chose, ça vaut le coup d'œil.
Non, c'est vachement convivial en plus. Et ça commence, les exposants arrivent vendredi après-midi, donc si vous voulez faire des bonnes affaires, c'est plutôt vendredi après-midi. Ou alors dimanche dans l'après-midi, parce qu'ils remballent et que, bon, tu vois, tu as toujours moyen de te débarrasser de 200 kilos de ferraille en vendant une moto pas chère, ça les arrange des fois.
T'as pas à recharger dans la voiture et à partir avec.
Et comme tu dis, en plus, tu rencontres, parce que bon, c'est quand même, ça attire toute une faune qui tourne autour de la moto ancienne, et ça attire plein de personnages qui enfin tu vois, tu trouves des grands-pères qui ont roulé sur des trucs et qui te racontent des histoires. C'est, moi je trouve ça super.
Je connais un petit bonhomme qui va bien s'amuser là-bas.
Bon. D'accord, le rendez-vous est pris. Donc c'est ce week-end, c'est le 17 et 18, et même voir le 16, hein, puisque le vendredi après-midi on peut commencer à aller faire un tour. À Sesquières, c'est facile à trouver. Pour ceux qui veulent des infos d'ici là, un numéro de téléphone, c'est le 05 61 74 15 68. Voilà. Fin du mois, on remet ça. Ça sera pas le même genre.
Comme ça, c'est un peu plus, comment dire, intimiste. C'est une bourse un peu plus petite, c'est organisé par le Coyote Racing Team. Et c'est la bourse de Kansas, quelques kilomètres avant Montauban. Et pareil, bourse moto ancienne, deux roues, trois roues. On trouve à peu près tout, en vélo, cyclo, vélo moteur, moto, tricycle, quadricycle et même sidecar. Avec une petite expo, parce que cette année quand même c'est les 10 ans du Coyote Racing Team, donc en plus ils font une petite fiesta. Donc on va voir plein de motos, et il y aura une exposition en fait, des motos des gens du club.
Un rendez-vous qu'on ne manquera pas, et j'espère bien
samedi, par contre, là,
que nous aurons dans la dernière émission de mars.
Un représentant du club
qui viendra nous en parler un petit peu plus. Avant ça, pour les amateurs de Grand Prix, je suis sûre que vous êtes prêts. Vous êtes tous prêts là pour le 25 mars, puisque c'est à Jerez que ça se passe, en Espagne.
Où ça?
À Jerez.
Alors, à Jerez, en espagnol. Non, on se moque pas. Et c'est le 25 mars. Grand Prix, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, donc fermez la parenthèse. En avril, je l'annonce déjà parce que ça c'est un rendez-vous à pas manquer, c'est le Boulder Classic. Le Boulder Classic, ça se passe sur le circuit de Magnicourt, il me semble.
Magnicourt, ouais, c'est à côté de Nevers.
À côté de Nevers, et ce sera le 14 et 15 avril, et bien entendu, nous y reviendrons dans cette émission. Je ferme cet agenda avec un dernier événement, là beaucoup plus sérieux, c'est un appel à manifestation. Hein. Dao vous a parlé d'une certaine colère tout à l'heure, et la FFMC, la Fédération Française des Motards en Colère, donc est toujours en colère contre ces lois un petit peu inégalitaires entre auto et moto, et appelle à manifestation nationale le week-end du 14 et 15 avril prochain. Donc nous, dans le 31, on se retrouve le 14 avril, rendez-vous départ de la manifestation à 13h30 sur le site de motocycliste de Candie. Voilà, donc rendez-vous le 14 avril, 13h30, à Candie pour le départ de la manifestation mobilisation nationale des motards en colère. L'agenda est fini pour aujourd'hui, on va se faire un petit morceau. Ouh là 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 là. Hein?
Ouh là là, ouais, c'est les Ludwig von 88.
Wir beginnen unsere Konzertwiedergabe mit der Sinfonie Nummer 1 in C-Dur, Opus 21 von Ludwig van Beethoven.
Ça déménage, dis donc, et ça remménage dans les guidons de l'info. Alors, c'est une histoire à épisode, puisqu'on avait commencé l'histoire la semaine dernière, puisqu'on parle de montant ancien en ce moment. Pat, il nous avait commencé une petite rubrique nous expliquant où et comment trouver une petite machine ancienne pas chère.
Et si jamais vous avez raté un épisode,
on peut réécouter l'émission sur le site lesguidons.free.fr. Alors ça, c'était une perche tendue, bravo. Oui, donc on avait parlé un peu, voilà, quand on débute en moto, on sait pas trop vers quoi se tourner, surtout si on n'a pas trop de sous. Donc la moto ancienne, c'est une façon de rouler un petit peu originale, différent qu'on va dire, pour un budget assez ric-rac. Bon, faut savoir quand même que c'est pas parce que t'achètes une moto pas chère qu'elle va pas te coûter un max. Mais c'est comme une danseuse, ça, tu choisis la jolie et puis après tu craches toute ta vie. C'est le truc, mais c'est pas très grave, ça permet quand même, pour une somme modique, d'avoir le cul posé sur une selle et de rouler un peu différent. Moi, je trouve ça bien.
Au moins pour un temps.
au moins pour un temps. Et puis, ce qu'il faut, c'est mettre la main à la pâte. Mais c'est vachement agréable quand t'es motard de bricoler ta moto, quand même. Faut reconnaître, hein. C'est un truc, dès qu'un rayon de soleil, tu démontes, hop, tu te mets sur un petit coin au soleil. Et c'est hyper sympa. Alors, j'avais parlé des japonaises, donc je fais un rapide petit tour. Pour 3000 euros, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de la KWAZ, on trouve de la CB... La CBF, les 900, F1, F2, on trouve du SR, on trouve du XT, on peut trouver du petit Deton RD. Bon, je vous avais fait un petit tour rapide de tout ça. Mais il n'y a pas que les japonaises dans la vie. Il y a aussi les allemandes, par exemple. Alors, Frida, à 3000 euros, ça peut se trouver. Parce qu'il y a les Allemands ont toujours la réputation d'être solides et chers. C'est vrai. Mais bon, avec le temps qui passe...
C'est toujours solide et ça devient pas cher.
C'est toujours solide avec des... Le problème, c'est que quand, comme tout ce qui est très solide, en général, les gens l'usent jusqu'à la trogne. Et c'est à ce moment-là qu'ils la vendent. Bon. Mais 3000 euros, il y a moyen de trouver des trucs rigolos. Hein. On trouve un BM des années 80. Années 60, c'est râpé. Années 60, c'est maintenant, ça vaut 5000 euros. Ouais. Années 70, ça en vaut encore 4. Années 80, c'est-à-dire les motos des flics, tu sais, le flat twin avec le carénage tout en pure fibre de verre, version allemande, c'est-à-dire qu'il pèse 17 kilos, avec la bulle. Ça, tu trouves. C'est les années 80, ça te permet d'avoir une moto qui est en bon état, esthétiquement, mécaniquement. Et en plus, l'intérêt d'un BM, c'est que ça se refait ad lib. Il n'y a pas de limite. C'est vraiment un moteur automobile. Donc, quand c'est mort, bah, tu prends, tu jettes les bouts morts et tu remets les bouts neufs. Mais il faut savoir que ça vaut un œil.
Il faut avoir les biscottos qui vont avec aussi, non?
Pour conduire? Pour les piloter?
Pour pouvoir la bouger, pour pouvoir la mettre sur la centrale.
Ah non, mais la centrale, il faut pas. Ou alors, si tu as déjà les vertèbres soudées, mais sinon, faut pas. Non, ça te casse le dos, ça c'est un truc de fou. Non, surtout si tu prends la version RT, les modèles tourisme, là, avec leur grand carénage pelle à tarte, et puis les sacoches Crozer à l'arrière, là c'est bon, tu peux pas la décoller de toute façon. Ou alors si t'arrives à la décoller, que tu me mets sur la béquille, un jour il fait chaud, de toute façon elle va s'enfoncer dedans, tu pourras pas la récupérer. Donc c'est un peu embêtant. Mais il n'y a pas que les BM. En allemand, il y a MZ, les fameuses MZ. Pour 3000 euros, tu peux trouver un superbe 250 avec un sidecar, par exemple. C'est tout à fait, c'est même souvent plutôt autour de 2000 euros, un 250 TZ ou TS. On trouve quoi? On trouve du Adler, du NSU. Tout ça, c'est des marques qui, dans les années 50, étaient des marques hyper connues, qui ont survécu jusqu'en général fin 60, début 70. Donc tu vois, elles sont plus bas de leur côte. De leur côte. Donc c'est le moment de les acheter, parce qu'il faut savoir que... T'as Maïko, par exemple, qui fabriquait le Maïko Mobile, un superbe scooter 250 avec une forme de cocotte minute des années 70. C'était un croisement entre Star Trek et puis, c'était un mélange de Star Trek et de Jane Fonda, Barbarella. Vous voyez, un peu un mélange des deux. C'est un peu ça. Non, c'est très bizarre, hein, on dirait.
Le rapprochement me paraît bizarre aussi.
Ouais, mais si tu vois la photo de l'engin, tu vas comprendre ce que je veux dire. Et ce petit jouet-là, c'est sorti dans les années 60, un 250 Maïko, Maïko Mobile en version scooter. Faut savoir que ça vaut 3000 euros maintenant, mais que dans 5 ans, ça en vaudra 3500. Dans 10, ça en vaudra 5000, hein, faut pas rêver, ça. C'est des véhicules vachement rares qui étaient un peu sous-motorisés. Donc ils n'ont pas eu un grand succès commercial, puis ils coûtaient très très cher à l'époque. Donc pour un collectionneur, c'est vraiment un objet à avoir chez soi. Après, pour rouler tous les jours, c'est quand même un peu spécial, parce que les enfants ils jettent des pierres, donc faut apprendre à slalomer. Mais sinon, bon, il y a du NSU, je vous l'ai dit, du Adler. Il y en a tellement des marques allemandes, qui a quand même été un grand pays producteur de motos. Jusqu'au milieu des années 70. Donc pour 3000 euros, il y a moyen de trouver des trucs vraiment rigolos. Après, il y a les françaises, parce qu'il y a quand même eu une production française. En moto ancienne, il y a de quoi faire en français. Pour 3000 euros, tu trouves un beau 350 motobécane. Tu sais, le 3 cylindres LT, comment il s'appelait, LTD, je ne sais plus, LT1. Bon, c'était un peu fragile, mais ça a un look original, un 3 cylindres de temps français. Français, monsieur. On peut s'acheter une Terreau, on peut s'acheter une C-Mec. Une C-Mec, c'est la copie. On en avait parlé dans l'émission, ça remonte déjà à quelques temps, de la C-Mec Ratier, qui était une copie BMW fabriquée en France après le départ précipité
des Allemands qui avaient laissé toutes leurs pièces.
Ils avaient laissé quelques morceaux, donc ils en ont profité. Une C-Mec à 3000 euros, on en trouve une L7. C'est quelque chose de tout à fait possible. Sinon, en très très joli esthétiquement, on trouve la MF650 ou la BFG. C'est à peu près le même designer qui a dessiné les deux. C'est-à-dire, il a pris un carré, il a mis des roues.
Oui, très joli, effectivement.
Ah non, c'est assez extraordinaire, oui. Faut savoir qu'une BFG, c'est quand même un moteur de GS Citroën. Donc on trouve de la pièce moteur dans les casses à tour de bras. C'est plutôt facile à bricoler. C'est des boîtes de vitesse de Guzzi et des couples coniques arrière de Guzzi. Donc tu trouves les pièces sans trop de difficultés. Après, on trouve de tout. Hein. En moto française, il y a de la Peugeot. Peugeot, jusqu'aux années fin des années 70, ils produisaient des motos. Ça vaut rien. Ça vaut rien financièrement, je veux dire. Après, en mécanique, c'était pas du tout de la mauvaise mécanique. On trouve des Terreaux. Des Terreaux des années 60, ça vaut 2000 euros. On trouve une très belle 175 Terreaux pour 1500, 2000 euros. Ça se trouve encore. Donc, on trouve encore... Des trucs rigolos. Bon, après, c'est sûr que si tu pars dans le monnaie goyon ou le dollar 500, bon, là, 3000 euros, c'est peut-être quoi acheter deux roues. mais bon, si on reste dans la moto populaire, il n'y a aucun problème de la petite moto culbutée. Et après, on arrive dans le plus beau pays fabricant de moto, quand même.
La Norvège.
C'est cela, oui, la Norvège. Bien sûr. D'ailleurs, très puté pour leur moto, culteur. Non, alors là, en Italie, c'est un petit peu plus compliqué. Là, faut reconnaître qu'à 3000 euros, ça se complique un petit peu. Hein. À part du V-Twin Morini, en 350 ou en 500, c'est un petit peu dur. Hein,
quand tu vas les acheter là-bas
Si tu vas là-bas, tu arriveras à les trouver à des prix plus raisonnables. Mais en Italie, il y a eu très très peu de grosses cylindrées.
Ouais, c'est vrai.
Les gens n'étaient pas très riches, donc en fait, ils achetaient du 350, du 500. C'est pour ça d'ailleurs que Morini a sorti que des motos en 350 et en 500. Mm-hmm. Et alors des palanquées de 50 et 125. Mais là, il y en a des à l'appel. Là, c'est sûr que là, par contre, pour 500 euros en Italie, tu reviens avec un camion de cyclo. Parce qu'ils en ont produit tellement que ça vaut vraiment pas cher. Encore que c'est en train de changer, ça aussi. Mais exit les Ducati à couple conique, exit les Laverda 3 cylindres, c'est un petit peu compliqué là. En Italie, ce que tu peux trouver pour 3000 euros, tu peux trouver une belle Guzzi 500, un V50 Monza, un truc comme ça. Ça vaut entre 2000 et 3000 euros, mais en bel état. Tu peux trouver un 650 Benelli, ça se trouve, ça c'est des trucs qui sont plutôt en bon état. Tu peux trouver, qu'est-ce qu'il y a d'autre, du Morini, donc les 350, les 500, du Laverda, un 750 SF Laverda, ça peut se trouver, c'est à peu près dans ces prix-là. Donc bon, il y a quand même quelques italiennes. Après oui, en petite cylindrée, oui, tu trouves du Laverda, du Vespa, du Fantic,
Là, il y a l'embarras du choix en
oui,
petite
il y en a
cylindrée.
Trop, il y en a trop. Et après, qu'est-ce qui nous reste ? Maintenant, on a quand même fait à peu près tous les pays qui fabriquaient des motos.
Et les Anglais ?
Ils sont chers. Hein.
3 000 euros, une Anglaise, c'est mal barré.
Voilà, c'était la réponse que j'attendais.
Oui, je suis désolé, ça va pas être facile hein, en Anglaise. Tu peux trouver du BSA A7, là, un espèce de 350 semi-culbuté. Mais bon, pour rouler tous les jours, là, ça devient compliqué. En plus, l'Anglaise, oui, elle demande un pilotage à l'Anglaise, quoi. Faut être très... très détendu, on va dire, à la conduite. Tu peux trouver du Jawa. Jawa pas vite, mais Jawa pas loin non plus. Tu trouves du KTM, le Katoche. Mais le problème du Katoche, c'est que la plus grosse cylindrée qu'ils ont fait à l'époque, c'était du 500 et c'était un 2 temps. Donc c'était à peu près inconduisible. Tu trouves en espagnol de l'Osa, du Bultaco, mais c'est des motos tout-terrain. En moto de route, il n'y a que le sans-glace, mais les sans-glace, ça mange tellement d'huile que tu as l'impression de rouler en 2 temps, alors que c'est un 4 temps. Donc bon, c'est quand même pas facile. Hein. En anglaise, vraiment, tu peux trouver du Royal Enfield, du Indian Enfield, en fait, à l'époque où elles ont été fabriquées. Là, tu en trouves presque une neuve à 3000 euros, d'ailleurs, chez Trophy Moto, copain Jeannot et tout, machin. Donc voilà, c'est quand même pas très facile, mais donc moi je serais vous, je me tournerais vers l'Italie, évidemment, ou éventuellement vers l'Allemagne, ce qui permet à un budget raisonnable de te mettre au bricolage. C'est le côté pratique, quoi, c'est qu'en même temps tu roules et t'apprends.
Et ben de faire les bourses
de ton quartier qui permet de trouver des pièces.
Oui.
Et après, de trouver des bons copains pour les conseils mécaniques.
Effectivement, tu trouves beaucoup de pièces dans ces bourses-là. Tu trouves de la pièce surtout d'allemande, d'italienne et d'anglaise. Faut pas rêver. Hein. Les japonaises, c'est pas encore... Ça commence à rentrer dans les bourses, parce que les motos, bah, elles commencent à avoir 30 ans, quoi. Mais c'est pas encore très courant. Et en plus, ce que tu trouves en japonaise dans les bourses, c'est que des motos très recherchées. Genre CB 750, premier modèle, là, le K0, le K1, du 3 cylindres Suzuki de temps, le Kawa 3 cylindres de temps, toi ça t'en trouve, mais ça coûte vraiment très très cher. Donc voilà. Mais bon, pour 3000 euros, c'est possible de rouler en ancienne. Surtout qu'en assurance, ça coûte beaucoup moins cher. Que tu sois jeune conducteur ou que tu sois un ancêtre... Tu peux assurer ta moto en collection du moment que tu ne l'utilises pas pour tes trajets travail domicile. Bon, mais quand tu roules sur une moto des années 50, à moins que tu aies un patron qui soit très très coulant, c'est quand même pas facile. Il y en a qui le font, mais c'est pas facile. Et il faut en gros une assurance collection pour une moto des années 50. Quand tu as 25 ans, on va dire, ça va te coûter 200 euros par an. Au maximum, quoi. Mais la majorité, c'est plutôt près des 50-60 euros par an, une assurance collection. Donc c'est quand même un truc qui peut être intéressant quand on n'a pas trop de sous, qu'on commence la moto. Et puis en plus, ça permet de... En général, on passe le permis sur une moto japonaise, hein, parce que je connais pas beaucoup de permis en Jawa ou en MZ, il n'y en a pas beaucoup. Et tu passes ton permis sur une moto japonaise, tu te fais la main sur une moto européenne, comme ça, après, tu peux vraiment choisir Europe ou Japon. Et évidemment, il y a la possibilité de rouler en américaine, mais là, il faut être riche, même pour les vieilles. Il faut pas rêver, ça c'est 3000 euros, c'est même pas la peine, le concessionnaire, il te parle pas, il t'adresse pas la parole.
Tu as les sacoches pour ce prix-là.
Ouais, tu trouves pas, donc là, c'est réglé.
On ne citera pas la marque en question, et on va se faire une petite parenthèse, mais ce sera pas le morceau choisi, Pat, c'est la surprise du chef, c'est le morceau du technicien.
Ah ah.
ジャズればジャバる僕ジャバればジャズる君二人の仲を例えればまるでジャズジャバみたいどんなに離れている時も仕事に追われている時もいつでも隣にいる感じそう二人はジャズとジャバの中
キョルジャゼキョルジャゼララジャバソンラジャバソンバ Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le Gaz entre le jazz et la java J'écoute Béa, un solo de batterie V'là la java qui râle au nom de la patrie Mais quand je crie bravo à l'accordéoniste C'est le jazz qui m'engueule, me traitant de raciste Jazz lève, java le beaucoup Java lève, jazz le kimi Futari no naka o tatoereba まるでジャズジャバみたい Oh, ma jazz et java, c'est du pareil au même Je me saoule à la Bastille et noircis à Harlem Oh, ma jazz et java, dans le fond, c'est tout comme Le jazz de Digoman, la java d'Igo-Homme
何があっても信じてる何があっても認めてる本当に素直な愛し方そう
二人はジャズとジャバの中ジャズればジャバる僕ジャバればジャズる君二人の中を例えればまるでジャズジャバみたい Quand le jazz est, quand le jazz est là La java s'en, la java s'en va Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le Malou de jazz, java l'itaï Malou de jazz, java l'itaï Malou de jazz, java l'itaï Malou de jazz, java l'itaï
Il n'y a pas que dans la moto que les Japonais nous envahissent. C'était l'histoire d'un Japonais à Paris, Tomuya, qui nous a chanté donc Jazz et Java avec Martin City Queen. Merci Michel pour ce morceau, c'était extra. Je suis allée faire un petit tour pour vous dans un petit coin de campagne en bord de Toulouse. Non, non, je plaisante, c'était juste en bord de Rocade.
Oui.
Derrière une un superbe lieu non je déconne, je vais pas en dire plus parce que là je vais être méchante. Mais je suis allée voir l'univers de la moto. Si, univers moto. Un concept complètement original. Apparemment, c'est une première en France parce que c'est une belle histoire qui commence entre vous le croirez peut-être pas mais entre plusieurs marques de moto. Les barrières de la concurrence tombent, littéralement. Et on va retrouver côte à côte Honda, Yamaha, Kawa, Guzzi, KTM. C'est quand même quelque chose de fabuleux. En fait, pour la petite histoire, c'est l'histoire de Joël Grazide, que tu connais peut-être, Pat. Oui. Yam Service à Blagnac, anciennement Yam Service à Blagnac, qui commençait à se sentir un petit peu à l'étroit là où il était, et qui s'est dit, il y a deux ans de ça, qu'il trouverait bien un endroit où il se sentirait un petit peu plus à l'aise.
Deux ans. Quoi, je suis arrivé à Toulouse, il cherchait déjà.
En train de Donc se ça dire creuse que... depuis un bon
ouais,
bout de
ça
temps.
Ça fait un petit moment que ça leur tourne.
Mais en tout cas, le projet a germé dans sa tête il y a deux ans de ça, en trouvant un lieu où là, il n'était plus du tout à l'étroit, mais ça devenait quand même carrément vaste pour lui tout seul. Alors, il est allé voir ses petits copains, entre guillemets, hein, je ne sais pas si c'était ses potes ou pas ses potes, mais en tout cas, c'est une histoire qui commence avec, sans aucun doute, une très bonne entente, hein, forcément, puisque ce sont des concessionnaires qui avaient chacun leur concession un petit peu dans la ville, comme Pacific Bike, j'ai du mal ce soir.
C'est Honda.
Honda, anciennement rue du Béarnais. JBS Moto pour KTM, qui était
oui.
Faubourg Bonnefoy. Pozza Moto, concession Guzzi et Kawasaki, qui
et
était du côté de. Oui, et Vauxhall.
Qui était avenue de Grande-Bretagne.
Qui était avenue de Grande-Bretagne.
Enfin, qui sont toujours d'ailleurs avenue de Grande-Bretagne. Ils ouvrent un deuxième magasin.
Ah, pour eux, c'est un deuxième. C'est pas un déménagement total.
Non.
Parce que pour les autres, apparemment,
oui,
c'est un déménagement total. Et donc, Joël, il propose à ceux-là, donc les frères Jean et Alain Birbès pour KTM, Robert et David pour Pozza et Philippe pour Pacific Bike, de s'associer à son projet pour mettre en place un complexe, l'univers de la moto, comme un méga pôle, un salon permanent où le motard pourrait venir flâner, faire le tour de ses différentes concessions sans avoir à reprendre la bécane pour faire le tour de la ville. Donc ça répond pour chacun d'eux à un besoin d'espace et c'est un beau pari. Les travaux ont commencé, je crois, en mars de l'année dernière. Et ils ont ouvert, là, le 1er mars dernier, le 1er mars 2007. L'adresse exacte, je crois que j'ai plus l'adresse. L'adresse de la rue, c'est rue Bonin. Alors, c'est Rocade, vous connaissez
Sortie
tous, 7. De toute façon, le stade toulousain.
Oui, c'est juste à côté.
C'est juste à côté, vous prenez, vous passez devant deux ronds-points.
Sortie 7 deniers.
Sortie 7 deniers.
Et puis ensuite, sur la droite, quand vous allez vers Blagnac, sur la droite, hop, on rattrape le stade Toulousain.
Et après, premier rond-point en face, deuxième rond-point en face, on arrive dessus, c'est rue Bonin. Alors, ce qu'on va y trouver, bon, il n'y a pas que ces quatre concessionnaires qui se retrouvent là. Au centre, au milieu de ce complexe, Maxess, accessoires moto, donc vêtements et accessoires divers et variés, y en a un peu pour tous les goûts. C'est aéré, c'est lumineux, il y a pas mal de marques, pas mal de choix. L'idée originale, c'est juste au-dessus du magasin accessoires moto, une mezzanine. Et dans cette mezzanine, un café. Alors, avec, juste à côté du magasin accessoires moto, donc en dessous de la mezzanine, un service rapide. Où vous pouvez aller faire votre entretien courant de la moto, changer les pneus, plaquettes, etc. Et pendant que les gens en bas ils s'occupent de votre moto, vous êtes juste au-dessus en train de siroter votre café et en train de mater ce qui se passe en bas. Ça fait un peu pervers, mais bon.
Ah, c'est très bien, l'idée est bonne.
Ouais. Je trouve que l'idée est originale, effectivement, et puis bon, ça permet de voir un peu ce qui se passe et puis de siroter son café tranquille en attendant que la mécanique soit terminée. On y trouvera aussi dans ce complexe la mutuelle d'assurance des motards qui a un bureau. Une auto-école aussi, pour ceux qui ont perdu le permis, vous pouvez y retourner. Mais bon, c'est pas ce qu'il y a dessus.
Si vous voulez la voir aussi.
Oui, aussi, pourquoi pas, mais bon.
Chacun son truc. Hein.
Là, chacun son truc. Mais l'idée intéressante aussi, c'est cette mezzanine, c'est quand même un espace de à peu près 100 mètres carrés. Un espace de convivialité où on peut s'y retrouver pour discuter, boire un café, etc. Mais avec un grand écran. Et l'idée qui est sympa, c'est que tous les soirs, à partir de 17h, vous avez toutes les retransmissions Eurosport concernant la moto. Vous aurez aussi les retransmissions de Grand Prix. Donc voilà, si au Motobroc Café c'est trop étroit, il n'y a plus de place, vous pouvez aussi aller faire un petit tour du côté de l'univers moto. Chaque concessionnaire a bien entendu son atelier mécanique. Donc voilà, l'endroit est sympa.
Ils viennent après, juste d'arriver là, ils s'installent. Il faut laisser un petit peu le temps de prendre ses
habitudes. Pas encore, tout installé.
C'est neuf.
Ce qu'il y a aussi, c'est une station de lavage moto. Alors devinez devant chez qui ils l'ont mis.
Devant chez JBS.
Devant chez KTM, forcément.
Oui, pour les nettoyer. Moto tout terrain,
c'est parce que là, c'est là qu'il paraît qu'on arrive avec les motos
les plus sales.
C'est
vachement bien étudié quand même.
Donc, qu'il y a de la gadoue.
Voilà, c'est très très bien étudié. C'est faut vous faire une idée par vous-même. De toute façon, faut aller jeter un œil pour voir ce que c'est et ce que ça donne. Ils sont en train de s'installer. Apparemment, dans l'avenir, il y a aussi l'idée d'y mettre en place des événements autour de la moto. Ce sera pas simplement un pôle avec les concessionnaires, l'accessoiriste, etc. Ce sera un lieu aussi où on pourra y aller voir certains événements. Donc tout ça, c'est à venir. Bien entendu, on gardera un œil vigilant pour vous tenir au courant de ce qui s'y passera.
Ah, puis c'est bien de diversifier un peu parce que quand même, quand tu arrives, enfin moi, quand je suis arrivé sur Toulouse, j'ai trouvé ça hallucinant, tout ce qui touchait à la moto sur la même avenue là. Je me disais, mais c'est quoi là? C'est un ghetto? C'est comme ça que ça commence, tu sais, on met tout le monde là, puis après on fait un mur autour, on fait salaud de motard. Et je trouvais ça fou, quoi, parce que je connais pas beaucoup de villes où c'est comme ça. Il y a Marseille aussi où c'est comme ça.
Où ça se concentre.
Tout est concentré dans le même quartier, c'est très curieux.
Mais là, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que c'est pas concentré dans le même quartier ou la même rue, c'est vraiment le même complexe avec les quatre concessionnaires.
Ouais,
quoi. Donc,
c'est un local
commun. Ça, c'est vraiment une première en France par rapport à ce concept-là où ils sont quand même concurrents les uns avec les autres et là, ils se retrouvent ensemble sur un même projet. Donc, affaire à suivre. On vous en dira plus en fonction de ce qui s'y passera et en espérant que ça marche pour eux et qu'il s'y passe des choses intéressantes. Donc le site est ouvert pour ce qui est du café, de la mutuelle, etc. C'est ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h. Et bien sûr, tous les concessionnaires, ce sera ouvert de 9h à midi et de 14h à 19h du mardi au samedi, comme tous les concessionnaires de la ville. On se fait une petite pause musicale. Ton dernier petit morceau, The Pat.
Les sales majestés qui nous chantent la rage.
plus rien à perdre.
Dernière petite ligne droite des guidons de l'info, une petite parenthèse sur le Grand Prix, c'était le Grand Prix ce week-end, et il paraît que Rossi il a vu rouge, hein, The Pat, non?
Sans doute.
Sans doute. Bah oui, je pensais que t'allais nous faire un commentaire là, mais devant lui c'était Ducati.
Ah oui, oui.
Ah, il a vu rouge bah, grâce à Stoner, hein. Case Stoner, un des plus jeunes pilotes de Grand Prix avec Pedrosa, je crois. 21 ans, le garçon, donc affaire à suivre.
Ceci dit, voir rouge quand tu roules par une marque sponsorisée par Fiat, c'est pas non plus très grave, hein.
Ça, c'était l'humour de la soirée. Bon, eh ben, rendez-vous le 25 pour RRS. On vous en dira plus dans d'autres émissions. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Stoner devant,
début,
Rossi deuxième.
C'est bien quand même que les Ducats, elles arrivent au premier Grand Prix. Elles montrent qu'elles sont là.
Voilà.
Voilà. Mais bon, déjà, à la fin de la saison de l'année dernière, on savait qu'elles étaient là.
Donc là, elles nous le rappellent.
Au championnat constructeur.
Elles nous le rappellent qu'elles sont là. Et donc, on va les suivre de près. Tu as quelques conseils mécaniques à nous donner, Pat, pour
Des
finir.
Petits tuyaux pour finir, ouais. Des petits tuyaux comme par exemple quand on doit stocker sa moto pour un hiver, voire deux hivers, voire trois hivers. Un truc tout bête.
Mais là, tu sais qu'on arrive au printemps.
Oui, mais on doit des fois stocker sa moto. Tu sais, on range celle d'hiver pour sortir celle d'été.
Ah ouais.
Eh oui, des fois.
Il y en a qui ont des sous, j'avais pas vu ça comme ça.
Eh oui, il y en a. Et donc, il y a un truc très bête. C'est quand on laisse un réservoir d'essence à moitié plein ou à moitié vide, ça dépend si on est optimiste ou pessimiste, il se forme toujours de la condensation en fait dans un réservoir. Parce que l'essence est un produit comme le liquide de frein qui a tendance à attirer l'humidité. Et pour éviter que la condensation se dépose donc dans ce réservoir, soit on fait le plein ras la gueule, c'est une solution, soit l'autre solution plus pratique, on met un tout petit peu d'alcool dedans. Alors bon, c'est pas la peine de sortir la vieille goutte de papy, hein. C'est non, de l'alcool à brûler pour se désinfecter, sinon l'alcool, vous savez,
l'alcool à brûler pour se désinfecter.
Non, l'alcool à brûler
ou l'alcool pour se désinfecter.
Un demi-verre, ça suffit. ça suffit pour rendre en fait l'essence non humiditivore, je sais plus comment on dit là, pour qu'il attire l'eau, et ça marche très bien.
Hydrophile.
Ensuite, qui n'a pas trouvé un carburateur pourri en essayant de remonter la mobilette du petit ou même n'importe quelle moto? Tu sais, le carburateur bien crasse-pouille avec un dépôt dessus jaunâtre et puis à l'intérieur, ça tous ceux qui ont bricolé des motos, ils ont déjà rencontré ça.
Comment est-ce qu'on nettoie ça?
Alors, ils vendent des produits magiques hors de prix dans les boutiques spécialisées, mais il y a un autre système qui est beaucoup plus simple. C'est tu presses 2-3 citrons.
Bah ça, c'est les recettes de grand-père.
Ah ouais, c'est la recette de grand-père. Tu presses 2-3 citrons, tu mets ça dans une casserole, tu mets un tout petit peu d'eau, il faut pas que le volume d'eau soit supérieur au volume du citron, donc on va dire 50-50. Tu mets tes pièces de carbu dans la casserole et tu fais bouillir.
Et après, tu goûtes.
Et là, tu ressors, les pièces, elles sont nickel. Parce qu'en fait, l'acidité du citron, en chauffant, décape les pièces. On est en zamac, presque toujours en zamac, les carbus.
D'accord.
Et là, tu récupères des trucs nickel.
Parce que tu mets pas les joints par contre dedans alors.
Tu mets pas les joints, ouais. Parce qu'il vaut mieux pas faire chauffer les joints. Quoi d'autre? Si vous avez un Honda, vous connaissez les trappes de culbuteur grippées. Ça, c'est un truc qui rend complètement fou. C'est-à-dire, il y a des toutes petites vis avec, t'as des toutes petites trappes qui te permettent de régler tes culbuteurs sur les monocylindres ou les bicylindres Honda. Des tout petits ronds avec une empreinte. Et ce truc-là est toujours grippé parce que aluminium sur aluminium, ça grippe. En fait, l'aluminium bourgeonne. Ça te bloque ton filetage et là c'est indémontable. Alors il y a une solution qui est vraiment excellente. Hein. C'est tu fais chauffer ton moteur un tout petit peu en le faisant tourner. Et puis une fois, pas trop, hein, parce que normalement les culbuteurs ça se règle plutôt froid. Donc tu fais chauffer le moteur doucement. Tu vas chercher les glaçons dans le bac à maman. Hop, tu chauffes les glaçons. Tu vas là et tu poses sur les trappes les glaçons. Et en fait, l'écart thermique du moteur chaud avec la glace fait rétracter la vis.
Et ça fait tout péter.
Qui se décolle en fait des filets. Le filet de la vis en lui-même, il va se rétracter. Le filet de la culasse, comme il est chaud, il est dilaté. L'écart entre les deux fait un espèce de jour. Alors c'est du micron, mais ça suffit pour te débloquer tes vis. Donc voilà, ça c'est un truc de grand-père, mais qui marche plutôt bien. Autre chose, quand on roule en japonaise, on connaît la vis cruciforme foirée. Ça, c'est un truc.
Mais ça, c'est parce que le mécano qui est passé avant, c'est un foireux.
Non, pas forcément. Que ça s'oxyde un petit peu.
Voilà, c'est le filetage qui s'oxyde et ça grippe le truc. Alors, quand la tête, elle commence à être un peu malade et que tu sens que ton tournevis, il va pas vouloir y aller ou que ça rippe, il y a un truc tout con, c'est la pâte à roder. La pâte à roder, on trouve ça facilement, ils vendent ça dans des tout petits. Tu remplis ton empreinte de cruciforme de pâte à roder, tu rentres dedans ton tournevis, et en fait la pâte à roder elle va servir à accrocher le tournevis à l'empreinte.
Pas con ça, et je vais en acheter des demain, parce qu'il n'y a pas que dans les moteurs qu'on a ce problème là.
C'est vrai.
Eh ben ouais, moi qui bricole à la maison, donc pour tous les bricoleurs à la maison, ne foirez pas vos pâtes vis, pâte à roder.
Ah bah oui. Autre truc, les chromes qui sont un petit peu piqués, hein, faut pas qu'il en y en ait plus que la moitié parce que là c'est mort. Mais quand ils sont juste un petit peu piqués, plutôt qu'acheter le super produit rénovateur de chrome qui vaut un œil ou un rein, ça dépend. Il y a un très bon truc, c'est l'huile de vidange usagée. Tu récupères ton huile de vidange parce que dans l'huile de vidange il y a des petites particules de métal qui ont été arrachées.
Mm-hmm.
Et en fait, tu frottes. Alors l'idéal c'est le top. C'est huile de vidange, brosse à dents. Bon, t'as pas toujours une brosse à dents, mais huile de vidange et chiffon. Et en fait, en frottant, les microparticules arrachées, elles font comme une pâte à polir. Et t'arrives à ravoir comme ça ton chrome. C'est pas mal ça, hein?
Mmh.
Faut savoir que l'huile de vidange, donc, les décape, mais que l'huile, ensuite, peut aussi le protéger. Donc, quand tu stockes une moto que tu te dis va rester là pendant 2-3 ans, un petit pinceau, un petit peu d'huile sur les chromes, comme ça le coup d'après t'as plus qu'à essuyer et tes chromes ils auront pas piqué.
Tu peux prendre à ta moto un bon bain d'huile avant de la stocker.
Ou de gasoil.
Bien protégé.
Le gasoil, ça marche pas mal le gasoil. C'est une bonne protection. Et quand c'est l'aluminium, vous allez me dire, parce qu'il y a quand même pas que du chrome, et ben quand c'est de l'alu, on va chez l'antiquaire du coin, ou chez Castorama, Leroy Merlin, toutes ces boutiques, et on achète de la laine d'acier 000. C'est utilisé en fait sur le bois pour enlever la cire, sans rayer le bois. Et ça marche très très bien sur l'alu. Tu frottes ton alu avec ça. S'il a été poli avant, tu récupères un alu poli comme neuf. C'est une bonne méthode à pas cher. Quoi d'autre ? On a les mains crado après tout ça. Hein ? Mais on n'a pas toujours du savon d'atelier cher et microbillé. Alors, une bonne technique, tu te fais un petit café, tu récupères le marc de café, tu le mets dans tes mains et tu fais couler un peu d'huile dedans. Alors l'huile, ça peut être de l'huile minérale de la cuisine ou de l'huile de vidange de ta, enfin plutôt de l'huile moteur. Ouais,
si tu pas veux encore de vidange. Les mains, tu vas pas te remettre de l'huile de vidange sur les doigts.
Non, tu prends
de
l'huile neuve, évidemment. Ouais. De l'huile moteur neuve ou de l'huile de cuisine ou de l'huile d'olive, peu importe, un corps gras quoi. Ça avec le marc de café, tu frottes bien fort, ça fabrique un savon microbillé. Ça marche super bien. Après un petit produit vaisselle, toi pour enlever le gras, t'as les mains comme neuves. Vous en voulez encore ?
Une dernière, là ?
Comme un bébé.
Une petite dernière, la visière rayée.
Ah, super, ça m'intéresse.
Moi aussi.
Ça, c'est assez insupportable, hein, quand même. Eh ben, dentifrice.
La pâte à dents.
Eh oui, la pâte à dents, c'est une pâte à polir. Avec le dentifrice à la brosse à dents, t'arrives à récupérer un petit peu ta visière. Et après, pour enlever le côté un petit peu... Parce que tu sais, ça va légèrement, pas la rayer, puisque c'est
oui,
pas...
Oui, mais mater un peu, ça va.
Ça va le mater un petit peu, un coup de fée du logis. Et hop, tu repars avec une visière.
Fée
du logis, c'est un produit vendu en supermarché qui sert à enlever la poussière qui se trouve sur les meubles et tous ces trucs-là. Mm-hmm. Vous connaissez pas le fée du logis ?
Pas un autre.
Non, moi, j'utilise plutôt le chiffon et l'huile de coude pour enlever la poussière.
Non, je vois pas, je dis fée du logis, mais c'est en fait un anti-poussière en bombe, tu sais, qui évite que la poussière se redépose quand tu la passes.
Oui, oui.
Je vois please.
Oui, please.
Vous voyez
please,
le please,
c'est ça, j'essaie
la
de voir l'agence, tu veux, qu'est-ce qu'on, avec quoi on pourrait remplacer ça, de
oui,
naturel
parce
quoi.
Parce que si on n'achète pas du please ou du phénologie, on est dans la merde.
Ah,
est-ce
oui,
que
non,
du vinaigre, par exemple, ça ferait l'affaire ? Est-ce que, tu vois, d'autres trucs comme ça, quoi ?
Je pense pas, non, parce qu'il faut quand même un produit, tu vois, qui garde la poussière, puisque c'est elle qui va enlever, c'est ça qui va enlever, en fait, le côté mat de ta visière. Mais en tout cas, ça marche bien pour les petites rayures. Hein. C'est pas cher, et du dentifrice, on en a.
Donc on ira piquer chasser le voisin.
Ben ouais.
Et voilà. On arrive, malheureusement, on y passerait la soirée, mais au bout de cette émission, on se retrouve mercredi prochain, même endroit, même heure. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez des choses à nous dire.
Si vous avez des petites astuces croustillantes comme ça, là.
Voilà, et si vous connaissez quelque chose qui peut remplacer le please, alors nous vous envoyez le tuyau ben, sur notre adresse mail, lesguinons@fruits.fr, lesguinons au pluriel tout attaché @fruits.fr, lesguinons@fruits.fr.
Bah dis donc.
Ou sur le site, il y a un lien pour nous laisser un petit message. Le site c'est lesguinons.fruits.fr. Bonne soirée.
Bonne soirée à tous, bonne route et à mercredi.
Ciao ciao.